Bonjour, Victor Gómez Frías. Je vais faire une présentation sur la dynamique des organisations. Elle est destinée spécifiquement aux élèves des 3e année de l'école de Pont Paris Tech qui suivent le module retour d'expérience du stage d'ingénieur, qui ont eu une expérience de 2 mois ou d'un an dans des entreprises et qui vont examiner pendant une semaine la confrontation entre leur expérience pratique et la théorie des organisations, de la psychosociologie du travail et d'autres théories. Mais c'est un rappel sur seulement des sciences de gestion qui peut être utile pour d'autres personnes qui consultent cette session. Donc, je vais parler un peu d'entreprises comme une chaîne de valeur, l'entreprise comme un système, des tickets de culture, gestion des ressources humaines, des types de structures qui caractérisent les organisations et des fonctions du manager. Donc, l'idée, c'est de regarder des différents angles de vue, comment fonctionnent les entreprises et certains de ces acteurs. Dans l'entreprise, le regard le plus facile pour observer cet objet, c'est comme une chaîne de valeur. Dans quel sens ? Par exemple, une chaîne de valeur qui combine des ressources diverses, humaines, technologiques, financières, pour créer de la valeur. C'est une unité économique destinée à créer de la richesse. D'ailleurs, si on passe à un niveau macro, les PIB, le produit intérieur brut d'un pays, et la somme des unités économiques et de la production des unités économiques d'un pays. Donc, effectivement, les entreprises créent de la valeur. Mais on peut voir aussi la création de la valeur au sens ce qui rentre et ce qui sort de l'entreprise. Dans ce cas, on peut caractériser cette flèche où ce qui est en jaune, les différentes fonctions, sont les inputs, ce que l'entreprise reçoit ou apporte de la valeur interne à travers ses ressources. Et finalement, il doit y avoir une vente et créer une marge. Donc, la somme de l'ensemble de ce qui produit l'entreprise, c'est une valeur globale, mais sa valeur ajoutée, c'est la différence entre ce qu'elle vend et ce qu'elle achète, ce qu'elle apporte comme ressource. Donc, c'est cette marge-là. Quand on regarde ce qu'elle a apporté comme ressource, on peut donc parler des ressources, mais on peut aussi parler des fonctions. Donc, par exemple, on a des fonctions et primaire, nécessaire à la production elle-même. Donc, par exemple, il y a la logistique de faire entrer des produits, les opérations pour les transformer, juste à la vente ou même les services après-vente, où on touche physiquement, disons, les produits, ou de même pour les services. Et il y a aussi des fonctions transversales qui permettent que l'entreprise soit coordonnée dans son ensemble, marche mieux, soit optimisée, même s'il n'est pas indispensable au processus physique, entre guillemets, de production, mais il faut qu'il y ait des ressources humaines, de la recherche et développement pour adapter les produits, des achats et des finances pour gérer au mieux la trésorerie et une direction générale qui définit une stratégie et qui coordonne l'ensemble. C'est ce qu'on appelle des fonctions support. On peut regarder aussi l'entreprise comme un système. Donc là, on regarde moins ce qu'elle produit, mais surtout comment elle est organisée à son intérieur. Et plus tard, on va voir son environnement, les périmètres. Donc, une entreprise est un système parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interagissent. Et regarder une entreprise comme un système permet de mettre l'accent surtout sur les interactions entre les composantes, entre les ressources humaines et aussi les autres ressources. Donc, on peut regarder interactions entre personnes et technologies, entre personnes entre elles, etc. On peut caractériser ces systèmes comme ouverts, parce qu'on va voir qu'une entreprise ne peut pas vivre elle seule, elle doit être toujours en relation avec un monde extérieur, avec le marchand. Elle est finaliste, parce qu'elle a un but qui est de créer de la valeur. Elle est contrôlée et hiérarchique. On pourrait imaginer des entreprises qui produisent sans un contrôle et une hiérarchie, mais dans la réalité, effectivement, pour s'installer dans un marché, pour avoir des méthodes de planification, il faut un contrôle et une certaine hiérarchie. L'entreprise, elle a une certaine autonomie, notamment pour définir ses propres objectifs, notamment dans un système capitaliste. C'est l'entreprise elle-même qui décide sa propre création, les marchés auxquels elle s'oriente. Elle définit son organisation. Les cadres légaux des différents pays sont très souples par rapport à l'organisation interne que peut adopter l'entreprise. Il y a des contrôles qui permettent d'assurer des droits comme les droits des travailleurs. Donc, il peut y avoir des exigences comme par exemple l'existence des syndicats ou des représentants des travailleurs, mais essentiellement l'entreprise, elle est libre à décider quelle division, quel département, etc., elle crée. Elle décide d'agir et elle doit contrôler ses propres résultats. Bon. Sans rentrer dans les détails, c'est juste un exemple. On voit ici un grand système, donc une entreprise qui est composée d'une direction générale, des unités de production, de marketing, de finances, avec les différentes activités. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que la DG s'occupe de la planification, de l'organisation, etc. En particulier, ça peut s'occuper directement des ressources humaines, des finances, ils ont leurs propres activités. La production a ses propres activités, les designs, les achats. Et les liens entre ces activités qui traversent les différentes fonctions sont les processus. Donc justement, les processus sont les conceptualisations des liens entre activités et des interactions entre les différents acteurs. Par ailleurs, il y a les procédures qui sont justement la volonté de mettre par écrit ou de formaliser cette organisation d'interaction entre différentes ressources et de cadrer un processus. Donc une procédure est une norme, ça relève de la capacité normative qu'a une organisation par rapport à elle-même pour organiser ces processus. Processus, il y en a de toute manière, même s'ils ne sont pas formalisés, il peut y avoir des processus informels. Ils sont nécessaires, ils décrivent, c'est l'essence même des relations entre les différentes ressources. On peut regarder un peu plus loin, juste en dehors de l'entreprise, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'un système ouvert, quel est son environnement. Effectivement, une entreprise, elle regarde son intérieur, les ressources qu'elle acquise, qu'elle incorpore, mais elle doit toujours avoir surtout un regard vers l'environnement extérieur. Donc il y a des facteurs économiques, elle maîtrise plus ou moins, donc, ça peut être la crise, la situation globale de l'économie, il y a des moments où il est plus facile d'accéder au crédit, d'autres moins, plus de demandes globalement. Et il peut y avoir dans son secteur plus concrètement et plus de demandes, moins de demandes, plus de concurrence ou moins. Il y a des facteurs socioculturels, ce n'est pas la même chose d'ouvrir une entreprise de voitures, une usine, dans un pays où il y a certaines normes du droit du travail ou des droits des sociétés que dans une autre. Et ces normes, ces droits, se complètent aussi par les attentes des personnes, notamment et par rapport aux relations de travail. Donc, il peut y avoir des cultures où la loyauté de rester dans une entreprise des décennies et peut être plus développée que dans d'autres où il est plus courant de changer d'entreprise plus souvent. Donc, ce sont des éléments socioculturel, parce que les entreprises vont accéder à un public de personnes qu'elles peuvent recruter qui est d'une certaine manière, et on peut essayer de chercher un peu les types de personnes qu'on veut, mais on trouvera plus ou moins facilement en fonction de la culture dans laquelle on s'adapte. D'où toute la question de la souplesse dont doivent faire preuve les entreprises multinationales pour s'adapter aux différentes cultures, tant dans vis-à-vis de ses clients que de ses travailleurs. Il y a aussi des facteurs politiques et légaux, les normes que j'ai indiquées sur les différents aspects juridiques qui régulent les entreprises. Il peut y avoir des facteurs politiques plus généraux, comme par exemple l'instabilité ou la stabilité d'un pays. Et il y a évidemment les facteurs technologiques, que d'un côté l'entreprise maîtrise à travers sa propre recherche et développement, mais il peut y avoir aussi le fait que une avancée technologique est créée par ailleurs et l'entreprise doit être attentive pour pouvoir l'incorporer et améliorer sa productivité. Un exemple d'analyse de cet environnement est, en ce qui concerne en particulier les secteurs et les concurrents, et sont les cinq forces des porteurs. Donc, par exemple, on regarde, d'un côté, il y a la concurrence intrasectorielle, c'est-à-dire les entreprises qui essentiellement font les mêmes choses. Des entreprises qui fabriquent et des voitures qui se ressemblent et se font la concurrence entre elles. Mais quand on regarde l'évolution dans une période de temps plus longue, il y a des produits de substitution qui apparaissent. Donc, par exemple, si on reste sur la voiture à essence, elle commence à être remplacée par la voiture électrique. C'est peut-être les mêmes entreprises qui les font ou pas, ou il peut y avoir des nouveaux entrants ou des produits totalement différents, comme par exemple les transports en commun, qui font qu'on a moins besoin des voitures. Il y a aussi, d'un autre côté, l'autre axe, c'est les pouvoirs de négociation des clients et des fournisseurs. Si on dépend d'un seul client, la balance est plutôt inclinée par une force de négociation qui avantage au client. Si on est dans une situation où on est plutôt fournisseur des multiples clients et qu'ils sont dépendants de nous, on est dans une situation de force. Et pareil pour l'entreprise par rapport à ses propres fournisseurs. Ce n'est pas la même chose de dépendre d'un seul fournisseur qui doit apporter un élément clé dans la production ou d'avoir la possibilité de faire recours à plusieurs. Un autre aspect d'analyse de l'entreprise, c'est essayer de caractériser une entreprise, une organisation, de manière générale, comme une personne juridique, sans une personne surtout qui a ses propres valeurs. Effectivement, ce n'est pas les valeurs qu'a l'entreprise, mais c'est la projection, la représentation que se font les personnes sur les valeurs que cette organisation représente. Donc, ces valeurs doivent finalement être incarnées par des personnes, mais aussi par des normes, par la réputation à travers l'action au fil des années. Et c'est une responsabilité importante des dirigeants d'avoir une vision, d'en être cohérent, d'être cohérent avec elle et de savoir la communiquer à toutes les instances de l'entreprise. Une entreprise, on peut y avoir, chacun peut penser à l'image des entreprises peuvent sembler plus agressives, plus innovatrices, plus ouvertes, ou d'autres, par contre, qui ont l'impression de s'installer sur un monopole et rendre moins de comptes, etc. Ou des entreprises et très transparentes, d'autres qui ont des problèmes de corruption, etc. Tout ça comporte une éthique de l'entreprise et qui n'est pas seulement des exigences légales à respecter, mais qui caractérise toute une référence culturelle propre, une culture propre à l'entreprise. La éthique nécessite de prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes, donc les actionnaires évidemment. Les actionnaires se sont investis dans l'entreprise et attendent qu'elle crée des bénéfices, une valeur. Il faut prendre en compte leurs attentes, mais il y a des parties prenantes internes, comme par exemple les travailleurs, mais aussi l'impact sur la société. On ne produit pas seulement parce qu'il y a des clients, mais à travers la manière comme on produit, on peut avoir des effets et des dérivés sur l'environnement, sur les voisins d'une manière générale. Donc, tout ça forme une culture interne de l'entreprise et une image qu'on a en externe. Bon, regardons maintenant une des fonctions particulières de l'entreprise qui est la gestion des ressources humaines. Ça concerne plus particulièrement, notamment pour les modules retour d'expérience des stages ingénieurs, les expériences dont on pourra parler au long de la semaine. Très souvent, et probablement beaucoup d'élèves l'auront entendu pendant leur stage, on entend les dirigeants dire que les personnes sont les premiers actifs de l'entreprise. À quel point c'est vrai? Évidemment, il n'y a pas d'entreprise sans personne, et pratiquement il n'y a pas d'entreprise sans technologie par ailleurs, mais quand on regarde la pratique, quand on lit les journaux, ses propres expériences ou celles qu'on peut raconter, on voit parfois, malheureusement, relativement souvent, des entreprises qui ont des employés qui ne sont pas du tout contents de la manière comme le travail est organisé. Et finalement, la fonction de travail, les différents processus qui passent à travers les personnes et sont les nœuds de la création des valeurs des entreprises. Et qu'apportent les ressources humaines par rapport à ça? Et il y a des ressources humaines, en réalité, décentralisées à travers toutes les fonctions des entreprises. Un manager technique qui transmet consignes techniques à son collaborateur, travaille sur un processus technique, mais en réalité est en train d'intervenir sur les ressources humaines au sens motivation et satisfaction avec le travail qui est fait. Mais les ressources humaines, c'est une fonction plus centrale qui s'occupe, bon, plus classiquement, d'activités administratives, bureaucratiques, qu'on peut être la paye, qui est évidemment nécessaire, mais et il peut y avoir d'autres compensations. Et par ailleurs, il y a des entreprises qui mettent en valeur, y compris dans la fiche de paye, ces autres compensations que l'employeur reçoit. On peut être des avantages des tickets de restaurant, mais aussi l'accès qu'il peut avoir à différents services sociaux dans le contexte de l'entreprise. C'est des manières d'être satisfait au travail ou d'avoir une rémunération indirecte. Les ressources humaines typiquement s'organisent et s'occupent d'organiser les postes en interaction avec les responsables techniques, mais c'est eux qui ont la responsabilité d'un côté de tracer la cartographie, l'organigramme global des postes qui existent dans l'entreprise et aussi de définir ou d'aider les responsables techniques à définir les contenus de ces postes, ce qu'on appelle les fiches de postes. Les ressources humaines ont un rôle central, parfois prépondérant, presque unique, dans les recrutements, et que ce soit les annonces ou les entretiens, etc. Et parfois, c'est un aspect négligé dans certaines entreprises, les suivis de carrière, qui se développent à travers la formation, l'actualisation des connaissances, des compétences qu'a la personne dans son travail, ce qui est un élément important aussi de motivation, d'évaluation de la performance, donc un retour sur l'expérience. Il ne faut pas considérer cette activité comme du contrôle et restrictif, punitif, mais comme une manière aussi pour l'employé d'avoir un retour d'expérience sur son travail, ce qui est nécessaire pour être rassuré sur sa manière de travailler et pouvoir s'améliorer. Et ce suivi de carrière doit être accompagné d'ajustement et des analyses sur la rémunération. On a dit que les entreprises sont des structures et qu'elles avaient une possibilité de s'organiser assez librement. Quand on examine l'ensemble des entreprises, on peut observer qu'il y a des structures types qui se répètent, qui sont relativement classiques parce qu'elles répondent à des besoins ou à des contraintes organisationnelles internes ou à nécessités productives sur la manière, par exemple, d'être en relation avec les clients ou en fonction de la présence géographique ou multisectorielle des entreprises. Donc, ce qui est important, et c'est les apports des sciences de gestion, c'est de faire correspondre l'organisation de l'entreprise au type et les plus proches des besoins que l'on peut avoir. La première structure qu'on peut décrire, c'est la structure fonctionnelle. C'est la plus simple, qui consiste à une grande centralisation, une direction générale, qui a sous son autorité des responsables fonctionnels. Par exemple, la production, les ressources humaines, les finances, les systèmes d'information, les ventes, etc. L'avantage de ces systèmes, c'est qu'il y a une distribution très claire des responsabilités. On sait que les ressources humaines, c'est elles qui s'en occupent, les ventes, c'est elles. Les canaux de communication sont donc très formels. Il est très facile d'aller reporter et transmettre l'information à la personne qu'il faut. Rapidité de décision, ça dépend. Rapidité de décision dans un contexte relativement statique, oui. Par contre, rapidité de décision pour évoluer et des secteurs, par exemple, de décider qu'on crée un nouveau produit et faire travailler toutes les fonctions pour analyser si on va savoir vendre ces nouveaux produits, comment on va devoir s'organiser en termes de ressources humaines, comment les finances impactent. Ça dépend. On peut avoir des rapidités pour des opérations courantes et on peut plutôt être pénalisé pour un ajustement dynamique. Il y a une stabilité. Dans ce système, il est plus facile d'identifier les fonctions d'une manière permanente et les maintenir. Et il est adapté très souvent à des petites entreprises. Les inconvénients, c'est surtout la concentration des autorités à responsabilité. Donc, ça veut dire que pour des grandes entreprises, ça risque de faire une trop grosse pyramide ou pour arriver à prendre une décision, la communiquer à une autre fonction, il faut remonter jusqu'en haut pour faire ensuite descendre. Et du coup, c'est relativement rigide. La structure divisionnelle, qui est une autre modalité qu'on peut considérer à l'extrême opposé, elle est fondée sur un principe de décentralisation. Donc, la direction générale n'a pas sous son autorité des responsables fonctionnels, c'est-à-dire il n'y a pas un responsable unique des finances. Il peut y avoir des pôles de centralisation des informations, mais essentiellement, le niveau des organisations se décentralise à travers des divisions, des filiales, non, des entreprises relativement autonomes qui font à l'intérieur toutes les fonctions. Par exemple, une entreprise multinationale utilise souvent ce type de structure divisionnelle de façon à ce que la filiale française soit relativement autonome et décide ses finances, ses ressources humaines, sa production, les relations avec ses clients, la filiale espagnole, italienne, etc. Et gère ses relations et son organisation d'une manière relativement autonome. Après, il peut y avoir des processus communs qui se construisent peu à peu. Et justement, on verra qu'il y a des hybrides entre structures divisionnelles et fonctionnelles, qui sont les structures matricielles. Justement, on essaie de tirer un peu les avantages des deux. Pour ce qui est des structures divisionnelles, quels sont les avantages? Donc, la flexibilité. Dans un pays où on n'a plus de clients, on peut plus facilement diminuer la taille de la filiale qui correspond, alors que le reste peut résister facilement. Ou de même si les divisions sont plutôt des produits. Donc, par exemple, on peut y avoir une division véhicule utilitaire, une autre division camion, une autre division bateau. Bon, au moment où on n'arrive plus à avoir des clients qui achètent des bateaux, on ferme cette division, on garde les autres et les autres ne sont pas impactés par rapport à cette réorganisation. Et il existe aussi un principe de responsabilité sur les divisions qui sont autonomes pour s'organiser. Une simplicité du contrôle parce que les actionnaires, la direction générale qui récupère les informations peut facilement dire on gagne de l'argent en France, pas dans cet autre pays, ou on gagne de l'argent dans les voitures, mais pas avec les bateaux, etc. Il est plus facile de contrôler, et finalement, prendre des décisions par rapport à quelles actions stratégiques, de présence dans des pays ou dans des secteurs il faut prendre. Alors que dans une structure fonctionnelle, les responsabilités sont un peu diluées et on ne sait pas trop si on a gagné de l'argent ou perdu de l'argent plutôt parce que les ressources humaines ont pris des mauvaises décisions ou c'était plutôt parce que les finances n'étaient pas bien gérées ou aussi parce que les marketing n'ont pas bien fait leur travail. Alors que là, on travaille plus sur un système de boîte noire où on dit, bon, ces pays-là gagnent de l'argent, ça marche. Ce qui n'empêche d'aller après regarder d'une manière plus précise pour optimiser, mais essentiellement les indicateurs de contrôle sont plus clairs. Ça permet aussi de refléter une diversité organisationnelle, donc, notamment pour s'adapter à la diversité, par exemple, entre pays en termes multiculturels. Peut-être, par exemple, que la structure de management peut être différente dans un pays où les relations à la hiérarchie sont d'une telle manière, alors que dans un autre où c'est en général des responsabilités, des relations hiérarchiques plus souples, plus plates, on peut adopter un autre modèle d'organisation. C'est aussi l'avantage de pouvoir comparer et de faire un benchmarking interne entre ce qui a marché dans une unité ou une autre. Et il est adapté donc souvent à des grandes entreprises où il n'est pas évident d'avoir une homogénéité importante. Et des inconvénients, donc évidemment les coûts, puisque finalement on risque de dupliquer des processus, des efforts dans différentes instances. Il peut y avoir malgré tout des conflits interdépartements. Ça, ce n'est pas propre à la structure divisionnelle. Ça peut être très classique aussi, la structure est fonctionnelle en termes de responsabilités d'action ou de qui a apporté ou pas à la réussite d'un projet, alors que là, il peut s'agir plutôt de la frontière. Donc, on a donné des exemples faciles où telle unité s'occupe d'un pays ou telle unité s'occupe d'un autre, mais parfois, on n'a pas de filiales dans tous les pays, on a une présence dans 3 ou 4 pays, et lorsqu'il faut décider quel projet, qui s'occupe d'un projet dans un cinquième pays, il peut y avoir plusieurs qui se battent entre eux pour dire « j'aimerais m'occuper de ce projet-là ». Donc là, les responsabilités, la délimitation de qui est responsable de quel périmètre d'activité peut être mis en cause. Et cette compétition interne, de toute manière, peut être un moteur, parce qu'il peut y avoir une volonté d'émulation ou de comparer la performance d'un département par rapport à un autre, justement, parce qu'on a des indicateurs clairs, et on peut dire, si on arrive à gagner de l'argent en vendant des voitures ici, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas là-bas? Et la difficulté peut être un manque de coordination. Globalement, quand les choses marchent bien, on a des unités qui rapportent et ça peut être facile à gérer, mais lorsqu'il faut ajuster parce qu'il y a des difficultés, des problèmes de rentabilité, pour aller au niveau de là où il faut agir, il faut descendre plus bas et du coup la direction générale a un levier d'action moins immédiat que dans une structure fonctionnelle où la chaîne des hiérarchies et la visibilité sur la manière de s'organiser l'ensemble de l'entreprise est plus évidente du point de vue de la direction générale. Donc des hybrides, c'est ce qu'on appelle structure matricielle qui peut recouvrir beaucoup de choses. Donc c'est en gros toute forme de mélange entre les deux. C'est très habituel dans des grandes organisations qui essayent de récupérer les avantages des deux, mais tout l'avantage peut être dans les conflits qui apparaissent à cause des doubles dépendances et hiérarchiques ou fonctionnelles qui font que, par exemple, les responsables des finances dans tel pays, d'un côté, il est responsable, il doit reporter, il a un chef qui est le responsable du pays, mais d'un autre côté, il a un chef qui est le responsable mondial des finances. Ça peut faire qu'il reste des angles morts parce qu'on ne reporte pas à une personne parce qu'on pense qu'on doit reporter l'autre, ou le contraire, ou bien des conflits parce que les consignes des chefs fonctionnels et du chef divisionnel ne sont pas tout à fait alignées. Bon, cette complexité peut être source de dialectique qui améliore ou qui oblige à réfléchir, à créer de la valeur, mais quotidiennement, ça peut être aussi une source d'inefficacité et voire d'ambiguïté. À un niveau plus détaillé, donc si on a parlé des ressources humaines comme une fonction transversale de l'entreprise et plus ou moins centralisée, le management, c'est la relation ou la responsabilité qui ont certaines personnes par rapport à l'organisation de les ressources autour d'eux, notamment des personnes, mais aussi des ressources financières, physiques, ou de l'information, qui est une ressource qui a des valeurs et parfois n'est pas prise en compte en tant que ressource, et seulement en tant que flux. Donc, le management, c'est l'ensemble de ces activités, notamment des planifications. Le manager planifie avant même d'organiser. Après, il recrute des personnes ou de manière générale, des ressources, fait venir les ressources qu'il nécessite pour produire. Il dirige, donc organiser, c'est des activités qui sont en amont, tout comme planifier. Diriger, c'est l'accompagnement quotidien, l'encadrement à nos actions de production. Et ensuite, c'est important, on l'oublie souvent, les managers doivent contrôler. Le management comporte une dimension de vérification de manière à ce qu'on puisse, d'un côté, opérer les contrôles sur les personnes en termes de rémunération, gratification, accompagnement de carrière, mais c'est aussi un retour d'expérience utile pour les prochaines opérations, les nouveaux cycles de production, on doit pouvoir tirer l'expérience du passé. Le management peut être aussi vu comme un élément qui comporte des talents personnels, une exemplarité, un charisme, de telle façon que cette personne arrive à faire travailler les personnes qui l'entourent d'une manière plus efficiente, parce qu'il arrive à se faire reconnaître comme une autorité, pas seulement par le pouvoir qui lui a été donné, mais par sa manière d'exercer ses pouvoirs. Bon. Quelles sont les compétences dont doit faire preuve un manager? Les identifier à travers trois types, les techniques, les interpersonnelles et les conceptuels. Donc, les techniques, c'est bien connaître son secteur, si c'est un informaticien, et avoir des connaissances solides une expérience dans son domaine. Par exemple, les interpersonnels, c'est la manière d'encadrer les équipes et les personnes qui sont surtout en face à face, c'est-à-dire les contacts directs avec les personnes pour motiver, pour les stimuler, pour pouvoir donner des orientations ou contrôler d'une manière générale en face à face. Et les conceptuels, ça concerne plutôt les capacités d'avoir l'entreprise dans sa tête et de décider comment il faut la organiser et pour qu'elle soit plus productive. Puis on peut voir qu'il y a, en fonction du niveau de responsabilité d'un manager, que ça encadre ce qu'on appelle plutôt un manager intermédiaire, responsable d'une division, ou un directeur général, comité exécutif, au plus grand niveau, que ses fonctions, ses compétences n'ont pas le même poids. Un niveau des cadres, et la légitimité, mais aussi le travail qu'il doit faire concrètement au quotidien, la personne passe beaucoup par des compétences techniques, mais aussi par les interpersonnels, les conceptuels, ont un poids et mineur, parce que les cadres à une marge de réorganisation de son propre travail qui est inférieure. Et au fur et à mesure qu'on avance, le directeur général, il est moins sensible aux connaissances précises de la technique. Il doit avoir juste une connaissance du secteur. Les connaissances interpersonnelles, il continue à les exercer parce qu'il aura toujours des personnes sous sa responsabilité qu'il faut qu'il motive, etc. Et ce qui prend plus d'importance, c'est les conceptuels, parce qu'il faut prendre des décisions qui concernent l'organisation de l'ensemble de l'entreprise, qui parfois comprennent des milliers de personnes. Qu'est-ce que le management par objectif et pourquoi il est important d'en parler? Justement parce que beaucoup de conflits qui apparaissent dans les organisations sont liés soit à des mauvaises structures, donc des chaînes des organigrammes qui ne font pas aux personnes reportées à qui il les faut vraiment. Donc du coup, il y a des personnes qui sont inconfortables, qui pensent l'être parce qu'elles s'entendent mal avec une personne pour des raisons interpersonnelles de caractère, de personnalité, alors qu'en réalité, la difficulté est tout simplement que le travail est mal défini et dans son contenu technique ou bien dans la manière de coopérer avec d'autres. Ou il y a aussi des questions d'insatisfaction et des difficultés dans le travail et pour les employés à cause d'une mauvaise définition de l'ensemble des responsabilités d'un poste, soit une fiche de poste incomplète, soit un management très anecdotique qui réagit au jour le jour à donner un ordre puis un contre-ordre en fonction des évolutions des demandes des clients, plutôt que de pouvoir donner un horizon plus clair sur quels sont les objectifs sur lesquels après on adapte en fonction des contingences. Le management par objectif consiste précisément, c'est un processus, parce qu'il lie différentes ressources, où les managers et son collaborateur sont capables de définir ensemble, ce n'est pas purement top-down où le manager dit « il faut faire ça » et le lendemain il perd à définir, mais les collaborateurs ont un rôle important, parce que c'est lui qui connaît le mieux ses compétences, sa capacité, sa charge de travail, ses attentes et son expérience et sur comment il a pu travailler dans le passé. Donc, ils définissent ensemble et des objectifs et des moyens et des indicateurs de suivi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de dire des objectifs, mais aussi de s'assurer de la manière d'aider les collaborateurs, d'assurer qu'ils pourront les atteindre en définissant les moyens nécessaires. Ça peut être des ressources, des ordinateurs, la capacité de voyager s'il faut aller et vendre ou contacter des clients. Et ensuite, des indicateurs de suivi. Bon, pour rester le moins possible dans les objectifs où les managers et le roi à la fin pour décider si les objectifs ont été atteints ou pas, il faut pouvoir les définir d'une manière telle qu'on ait des indicateurs pour les suivre et mesurer si les objectifs ont été atteints. Par ailleurs, justement, il ne faut pas confondre objectifs qui doivent être des indicateurs qui doivent pouvoir se mesurer par des indicateurs très concrets et chiffrés, que les activités pour les atteindre, sur lesquelles, dans la mesure du possible, il faut laisser autant de liberté aux collaborateurs pour s'organiser qu'il soit possible, ni des valeurs qui sont des aspects plus généraux sur la manière de travailler. Et bon, il s'agit justement de créer un système d'amélioration continue où il y a un retour des communications et en cohérence avec ce qui a été dit sur les objectifs d'une manière chiffrée, ils doivent être donc tout à fait explicites, par écrit donc, ambitieux, parce qu'il faut créer un élan, une dynamique, mais réaliste. Les objectifs qu'on ne peut pas atteindre, ce ne sont pas des vrais objectifs, puisqu'on sait qu'on ne vise pas à les pouvoir atteindre. Ils doivent évidemment être alignés avec l'objectif de l'ensemble de l'entreprise, d'où la cohérence d'un ensemble des managements par objectif qui monte en niveau et où les niveaux plus hauts déclinent les objectifs à travers les niveaux plus bas. Il n'y a pas des unités autonomes qui définissent des objectifs et après des unités à d'autres niveaux qui définissent des objectifs différents qui ne sont pas tout à fait intégrés. Ils doivent avoir un horizon temporel. Ils doivent être donc quantifiés dans la mesure du possible. Enfin, il s'agit donc de la motivation. Elle s'élève à un stade justement où on doit avoir l'expérience très quotidienne de la motivation et du manque de motivation parfois, à travers notamment la manière comme ils ont été managés et ou comme ils ont subi une organisation du travail inefficace. La motivation, il s'agit de quoi ou comment on la peut mesurer? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la performance de quelqu'un, c'est une fonction d'un côté de sa compétence, les différentes aptitudes techniques, connaissances, savoir-faire qu'il puisse avoir et acquis, et qu'il développe à l'entreprise à travers l'expérience et la formation, mais aussi d'une autre composante qui est la motivation, qui est difficile d'apprendre, de mesurer, mais qui est faite de plusieurs éléments qui contribuent, comme sont l'encouragement de supérieurs, les feedbacks positifs mais aussi négatifs, parce qu'il est très frustrant aussi de penser qu'on peut ne pas avoir donné satisfaction et on n'est pas sûr à quel point et on ne sait pas comment l'améliorer. Une discipline, hiérarchie juste mais efficace, donc pas punitive mais qui permet une dynamique des responsabilités, d'un engagement sur les objectifs qui ont été tenus, le développement professionnel, c'est-à-dire les perspectives de pouvoir évoluer dans les postes, et la cohérence de ces objectifs, c'est-à-dire ses propres objectifs avec ceux de l'ensemble de l'entreprise, pour ne pas avoir l'impression de ramer dans son sens qui ne correspond pas à ce qu'il souhaite dans l'entreprise et de faire donc des choses inutiles. Quand on regarde à un niveau plus basique, la motivation et peut s'expliquer à travers des modèles, comme les modèles très basiques de la pyramide de Maslow, où on a des niveaux de satisfaction et des besoins qui sont tout au début les besoins physiologiques, manger, etc. la sécurité personnelle, sentir qu'on n'est pas en danger, un danger physique ou un danger et par rapport à la sécurité du travail, etc. Il y a d'autres niveaux qui sont l'appartenance et affective, et les entreprises contribuent à ça. On se sent et bien dans un groupe, avec des collègues, avec des supérieurs et à qui on respecte et qui nous respectent. Donc, il y a des éléments affectifs et dans l'entreprise, d'estime, estime par rapport aux autres, donc on se fait respecter et on est apprécié en tant que personne, pas seulement intégré et dans un groupe, mais aussi estimé individuellement en tant que personne. Et les niveaux supérieurs, c'est l'accomplissement personnel, où on arrive au-delà de l'estime des autres, à sentir qu'on fait ce qu'on veut et qu'on croit aux missions auxquelles on contribue. Donc tout ça se développe à travers la vie personnelle, mais aussi les mondes professionnels. Et les projets professionnels, il a une partie importante, surtout à l'initiative des propres personnes pour trouver leur voie, mais l'entreprise doit être attentive à soutenir tous ces niveaux de la pyramide de Maslow, soutenir et aussi orienter et pouvoir fournir de l'aide pour que ces 5 niveaux dans lesquels intervient l'entreprise et soit effectif et se développe. Une entreprise qui considère que juste parce qu'elle paye et elle fait son travail, elle touche là seulement les niveaux premier ou deuxième, les besoins physiologiques et la sécurité de pouvoir manger, mais il y a tous les restes qui sont des composantes essentielles de la motivation. Une déclination plus en termes de sciences de gestion, c'est les modèles de McGregor, où on parlait des managers X et Y, qui managent à travers la méfiance, c'est-à-dire les contrôles, où on considère qu'un collaborateur ne fera jamais rien s'il n'est pas contrôlé et qu'il essaiera toujours de fuir ses responsabilités, ou bien la confiance de comprendre que du moment où quelqu'un est embauché à une responsabilité, il va aussi chercher à s'épanouir en s'identifiant avec les missions. Et de même, donc, de mettre l'accent sur les contrôles, penser que tout est contrôle. Contrôle est toujours nécessaire pour ajuster l'action, ou bien plutôt de considérer que c'est la participation, la définition et coopérative des objectifs qui peut être utile. C'est notamment ce qui est dit sur le management des objectifs, correspond tout à fait à ce modèle de manager Y qui a une confiance et qui définit les objectifs et en participation avec ses collaborateurs. Donc voici un aperçu très rapide des entreprises en termes de structure, en termes de fonctions, en termes de ressources humaines, comme une fonction très précise et qui a particulièrement trait évidemment aux aspects humains et très particulièrement à comment les managers agissent. J'espère que ça servira notamment aux élèves du module retour d'expérience de stage et d'ingénieurs pour analyser que leur propre vécu humain par rapport aux situations de travail dans lesquelles ils sont participés ne consiste pas seulement au niveau d'entente interpersonnelle avec une personne concrète, mais que ça s'installe dans un ensemble de l'entreprise, que ce soit au niveau des valeurs que l'entreprise a réussi à construire à travers une culture propre à l'organisation, puis au choix d'une structure qui peut être plus ou moins s'adapter à la manière de travailler, et en troisième lieu, à la manière des managers qui peut être plus ou moins participatif et qui a un effet déterminant sur la motivation des collaborateurs. Merci beaucoup.